Merci du coup aux trois mâts d'avoir un petit planning pour ce 42 minutes. J'expliquais un petit peu que c'est un peu nouveau pour nous ce format, mais on aime bien les challenges, alors on a accepté avec grand plaisir. Donc je me présente un peu parce que je trouve ça toujours intéressant quand même de savoir qui on a en face de nous. Je mets en même temps mon chronomètre parce que comme je vais vous le dire, c'est 21 minutes, on n'a pas l'habitude, donc moi ça va me servir de repère. Donc moi je m'appelle Clémentine, je travaille au planning familial à Angers. Le planning familial, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'association, certaines personnes s'y connaissent. Rapidement, je vais vous expliquer quand même un peu ce que c'est comme association. C'est une association qui existe depuis fort longtemps, à Angers depuis 50 ans, on a fêté notre anniversaire l'année dernière. Et au niveau national, parce qu'on n'existe pas que à Angers, on existe aussi depuis un peu plus de 60 ans aujourd'hui. On est une association qui parle des questions de sexualité, mais pour nous, le mot sexualité, il englobe énormément de termes. Donc on parle des relations entre les femmes, entre les hommes, mais on parle aussi d'égalité. Pour nous, l'égalité, elle est un peu partout, et y compris dans la sexualité. Donc quand on parle de couple, quand on parle de contraception, de dépistage, de difficultés dans la sexualité, dans le couple, etc., bah, on touche un petit peu aussi les relations hommes-femmes et du coup on touche la question de l'égalité. Donc très concrètement, on reçoit des personnes chez nous au planning, on n'est pas très très loin d'ici, vers l'avenue Montaigne, vers le Picard, souvent ça parle. Et on reçoit toutes les personnes donc, sur des questions de sexualité, des questions de tous les jours un petit peu. Et on intervient beaucoup aussi à l'extérieur, dans des écoles, dans des collèges, lycées, dans des maisons de quartier, dans des structures pour des personnes en situation de handicap, toute personne qui ferait appel à nous en fait. Donc on aime bien rencontrer des nouvelles personnes sur nos questions. Donc ce soir, un nouveau challenge pour nous. En fait, challenge surtout pas forcément sur les questions, parce que c'est des questions qu'on aime beaucoup aborder, qu'on aborde souvent. La question de l'égalité femmes-hommes et des stéréotypes, filles-garçons, c'est surtout les 21 minutes. Et le fait que nous, on est toujours, on aime beaucoup le participatif. Donc, avoir juste un temps que pour nous, on n'a pas trop l'habitude, mais on échangera après. On prendra le temps juste après. Donc, on verra si j'arrive à rentrer dans les 21 minutes, à avoir assez. On verra ça au fur et à mesure. Donc, en tout cas, aujourd'hui, dans le cadre de la semaine de l'égalité au 3 mars, ce 42 minutes sur l'impact des stéréotypes filles-garçons sur l'éducation. Donc sur l'éducation de nos enfants, qu'on soit parents ou qu'on soit éducateurs, éducatrices, à tous les niveaux, en tout cas quand on accompagne des enfants. Donc je vais vous passer effectivement un tout petit extrait d'une minute pour introduire un petit peu notre sujet.
Eh bien, vous prenez un groupe d'adultes et vous leur montrez une vidéo d'un bébé de 9 mois qui est en train de pleurer. Et vous leur dites, regardez, cette petite fille, elle pleure, qu'est-ce que vous imaginez qu'elle a? Et à ce moment-là, tous ces adultes répondent, oh, elle a du chagrin, elle est triste. Et vous montrez la même vidéo du même bébé à ce même groupe d'adultes et vous leur dites, regardez ce petit garçon, il pleure, qu'est-ce qu'il a? Et bien, ils vont vous dire, oh, il est contrarié, il est en colère, oh là là, il n'est pas content. Vous voyez, c'est-à-dire que sur le même visage, sur la même face, sur les mêmes expressions émotionnelles, eh bien on projette déjà tout un univers qui est que les petites filles, elles doivent être plutôt douces, elles peuvent être tristes, elles ont du chagrin, elles doivent finalement se soumettre d'une certaine façon, et les petits garçons, eh bien, ils sont coléreux et ils s'affirment leur personnalité.
Court extrait, hein, mais qui est quand même assez que je trouve assez intéressant pour introduire. Vous pouvez revenir en cercle si vous voulez. Effectivement, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais très souvent, lorsqu'on a l'annonce d'une grossesse d'une personne ou au moment de la naissance d'un nourrisson, la première question qui nous vient en tête, c'est alors, quel est le sexe? C'est une fille ou c'est un garçon? C'est vraiment la première chose qui nous vient très rapidement. On voit à quel point le sexe de l'enfant à naître va venir déjà, alors même que des fois il n'est pas encore né, influencer certaines manières de voir. Donc là, c'est sur un comportement à la naissance, mais même avant la naissance, du prénom, du choix du prénom, à la couleur de la chambre, aux vêtements choisis, tout petit, ou après aux jouets achetés, eh ben, ça va avoir quand même pas mal de répercussions auprès des parents, et pas que auprès des parents, mais aussi à l'école, au sport, dans les loisirs. Donc c'est un peu de ça dont on va parler à l'âge enfant, mais aussi plus tard, quelles répercussions ça a quand ces stéréotypes-là, bah, on les intègre dès qu'on est petit et petite. Donc déjà, peut-être pour définir un petit peu, ça veut dire quoi le mot stéréotype ? Les stéréotypes, c'est des représentations qu'on s'est faites assez simples sur un groupe de personnes. Et c'est des choses qui se véhiculent par voie orale, par voie écrite, mais c'est des choses qui se transmettent. Donc, on les attribue à un groupe donné ou à un individu. Il y a des stéréotypes de plein de sortes. Nous, aujourd'hui, on s'intéresse aux stéréotypes liés au fait d'être une femme ou au fait d'être un homme. Parce qu'on pourrait entendre aussi des stéréotypes sur la couleur de peau. Le fait d'être blanc, le fait d'être noir, le fait d'être de telle origine, le fait de... On entend des stéréotypes sur plein de groupes de personnes. Là, aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler les stéréotypes de genre, liés au genre masculin ou au genre féminin. Et donc, ben, ces stéréotypes vont vraiment avoir un impact sur nos rôles, la manière dont on va se comporter en tant que femme, en tant qu'homme, dans la société. De manière très classique, on peut en citer quelques-uns des stéréotypes, si vous en avez en tête, mais par exemple, un garçon, ça ne pleure pas. Les femmes n'ont pas le sens de l'orientation. Les femmes savent moins bien conduire que les hommes. Les hommes ne pensent qu'à ça, en pensant au sexe, évidemment. Les filles sont nulles en maths.
Les hommes sont forts.
Les hommes sont forts. Donc on pourrait en avoir pas mal, des stéréotypes en tête. La question aujourd'hui, c'est est-ce que ces stéréotypes, ils ont un effet sur l'éducation de nos enfants et surtout sur l'égalité entre les femmes et les hommes? Si ça n'en avait pas, ben en fait, on vivrait avec. Le problème, c'est qu'effectivement, on observe que ça a un impact sur l'éducation et ça a un impact plus tard sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc on va développer un petit peu ça. En plus, ces stéréotypes, quand on se penche d'un peu plus près, on est tous et toutes assez perspicaces pour se rendre compte que bah, non, toutes les femmes ne sont pas comme ça, tous les hommes ne sont pas comme ça, toutes les filles ne sont pas nulles en maths, tous les hommes ne pensent pas qu'à ça, tous les hommes ne sont pas forts, toutes les femmes ne savent pas bien faire la cuisine, etc. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on y croit si fort à ces choses-là et qu'on les véhicule encore? Parce que ça vient depuis qu'on est tout petit. Comme on le voit là sur l'extrait, dès l'enfance en fait, il y a des choses qui viennent. Et donc, chez les filles et chez les garçons, on va encourager des choses différentes. Chez les filles, on va encourager des traits de caractère, comme par exemple la douceur, comme la discrétion, le soin auprès des autres. Donc, et ça, très petit. Chez les garçons, on va encourager la force, effectivement, la détermination, le fort caractère. Et ça, il ne faut pas dire qu'on les encourage de manière consciente. C'est très inconscient. Comme, voilà, on le voit sur un même comportement d'un nourrisson, on va dire quelque chose de tout à fait différent. C'est parce qu'on a intégré des choses depuis qu'on est tout petit. Et ces traits de caractère, à force de les valoriser chez quelqu'un, ben on finit par s'installer dedans. Et on va grandir avec. Et ce qu'on appelle la socialisation, le fait d'adopter des comportements, d'être à l'aise de plus en plus dans certains traits de caractère en grandissant, elle va avoir un effet. On va vraiment l'intégrer. La socialisation, elle se joue par les parents, premièrement, mais pas que. Par l'école, après par les fréquentations qu'on va avoir, par le travail, et on va être nous-mêmes responsables de notre propre socialisation à l'âge adulte. ces stéréotypes, on observe que quand on essaye d'y déroger un petit peu, et ben on peut aussi, quand on est petit, vite être rejeté par les autres. On prend l'exemple d'un petit garçon qui jouerait à la poupée. Déjà, où est-ce qu'il aurait l'occasion de jouer à la poupée ? Est-ce que parce que ses parents l'autoriseraient, lui auraient par exemple offert une poupée parce qu'il l'aurait demandé ? À l'école ? Est-ce qu'à l'école, tous les enfants continueraient de jouer normalement à côté de lui sans lui dire « Bah attends, pourquoi tu joues à la poupée ?» Aujourd'hui, ça arrive de plus en plus quand même. Il y a des choses qui bougent. Mais quand même, pour le petit garçon, ce ne serait pas forcément si simple. Il y aurait le risque, il aurait vraiment intégré ce risque d'être rejeté par ses pairs. Pareil pour une petite fille qui pourrait, par exemple, une petite fille qui se salirait souvent, qui porterait une jupe et arrêterait pas de soulever sa jupe, on lui dirait, bah, quand même, c'est pas comme ça qu'une petite fille va se comporter. En exagérant un petit peu les traits, hein, mais malgré tout, elle entendrait assez souvent, ou on lui ferait comprendre de manière assez insidieuse, que quand même elle doit se tenir correctement et être assez discrète. Donc ça va être voilà, de manière très inconsciente. Des choses qui participent à ça, ça va être aussi les catalogues de jouets. On approche là dans une période où les catalogues de jouets vont venir à profusion. Il y a des choses aussi qu'on peut bouger à ce niveau-là. On va trouver des catalogues de jouets avec des pages mixtes ou pas du tout de différenciation. Mais quand même, vous aurez l'occasion d'observer là très bientôt ou dans les magasins, hein, le rayon bleu et le rayon rose, qui sont clairement, clairement distincts. Si on avait poussé un peu plus loin dans la vidéo, on aurait pu voir, justement, on voit dans un magasin de jouets un vendeur qui nous explique la différence entre le jouet garçon et le jouet fille. C'est intéressant de se pencher sur la différence. À quoi jouent les petites filles, à quoi jouent les petits garçons? On va vraiment encourager les jouets d'imitation chez les petites filles. Donc les jouets d'imitation, ça va être l'imitation de qui? Bah souvent de leur maman. Parce qu'effectivement, ce qui est tout à fait normal dans le développement psychosocial d'un enfant, c'est à un moment donné le besoin de s'identifier à un adulte référent. Et quand on est une petite fille, bah souvent c'est à sa maman, et quand on est un petit garçon, c'est à son papa. Quand il y a un maman et un papa. Une maman et un papa, si vous voyez. Même pas fait exprès. En tout cas, ça va être les jouets d'imitation effectivement de la maman. Et à la maison, par exemple, qui est-ce qui s'occupe du repassage? Qui est-ce qui s'occupe de la cuisine, du ménage? Bah, aujourd'hui, les études nous montrent encore que c'est majoritairement les femmes. Soit 72% des tâches domestiques sont occupées par les femmes par rapport aux hommes, ce qui fait à peu près 3h30 par jour par les femmes pour 2h pour les hommes. Donc ça ne veut pas dire que les hommes n'en font pas, mais ils en font moins. Et donc, bah, voilà, les petites filles, elles vont se retrouver avec des jouets d'imitation où elles vont faire la popote, où elles vont avoir des mini-fers à repasser, des mini-balais, des mini-aspirateurs. Et aujourd'hui, ils font des choses assez incroyables dans ce sens-là. Des jeux d'imitation qui ne vont pas forcément en plus favoriser l'imagination. Ce qui ne veut pas dire que les petites filles ne vont pas trouver le fait de prendre un fer à repasser pour jouer avec quelque chose qui n'a rien à voir. Et elles vont créer leur imagination comme ça. Et les petits garçons, dans les réunions, on va trouver des jouets qui vont plus être des jouets d'action. Et ouais, des jeux qui vont encourager aussi certaines qualités tout à fait différentes que celles des filles. Donc déjà, ça alimente grandement. Au niveau des loisirs pour les enfants, les petites filles, elles font rarement du foot. Les petits garçons, ils font rarement de la gymnastique. Donc inconsciemment aussi, les parents vont inscrire leurs enfants dans tel ou tel club. Alors parfois on va nous répondre, mais mon fils me demande de faire du foot, donc je ne vais pas l'interdire de faire du foot parce que c'est un garçon. Évidemment, il ne s'agit pas d'interdire quoi que ce soit, mais juste d'en avoir conscience et d'y réfléchir, de dire pourquoi mon fils il me demande du foot et pourquoi ma fille elle me demande de la danse. À noter, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en termes d'équipement de sportifs municipaux, des études ont montré que les équipements sportifs dits de garçons sont beaucoup plus financés que les équipements de filles. Les stades de foot, par exemple, les skateparks. Ce qui ne veut pas dire que ça, c'est interdit aux filles, hein. Mais c'est quand même des loisirs, des sports où les filles sont beaucoup moins encouragées. Donc, même au niveau des politiques de ville, il y a des choses, il y a des répercussions qui se font. Si on crée moins d'équipements sportifs pour les filles, eh ben on arrive à des chiffres plus tard où les filles, elles abandonnent le sport beaucoup plus tôt que les garçons. Et à l'adolescence, il y a beaucoup plus de garçons dans les chiffres qui pratiquent encore une activité sportive par rapport aux filles. Donc ça a des répercussions. Et si on va encore plus loin, le sport a des répercussions sur le développement physique aussi. Sur quels muscles ? Il est intéressant aussi de s'intéresser à la danse, la gym, ça ne développe pas le même corps que le foot, la boxe ou des sports de combat. Donc forcément, à un moment donné, ben, on va pas au niveau du corps, on va voir la différence. Il y a beaucoup de sociologues qui ont travaillé là-dessus, donc je vous invite à regarder leurs ouvrages sur la construction sociale du corps qui est très très intéressant. Donc en tout cas, les enfants, voilà, à l'école aussi, évidemment, on observe que malgré la très bonne volonté d'instituteurs, d'institutrices, il y a des comportements qui sont reproduits. On va intégrer le fait que les petits garçons, ils sont plus turbulents que les petites filles. Donc parfois, pour une même bêtise, on va punir plus les petits garçons que les petites filles. Au niveau du taux de réussite scolaire aussi, on observe que le taux de réussite scolaire est un peu supérieur chez les filles. On continue aux écoles supérieures, ça va être la même chose. Par contre, à la fin, qu'est-ce qui fait qu'on trouve plus d'ingénieurs hommes que d'ingénieurs femmes? Donc, à un moment donné, on n'arrive pas à passer le cap. Et les petits garçons, à l'école, du coup, vont être perçus comme plus agités, plus turbulents. Donc, ça a aussi des répercussions où des fois, ils peuvent avoir un sentiment un peu de... qu'il n'y a que eux qui sont punis, quoi. Avec les filles, forcément, elles s'en échappent un peu toujours. Bon, évidemment, ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais on retrouve quand même, dans des études de sociologie, justement, dans les écoles, une différence de comportement de la part des instituteurs et institutrices, qui n'est pas surprenant, étant donné que chacun, chacune, on n'y échappe pas comme ça, quoi. Quand on grandit un petit peu à l'adolescence, on va observer que ces stéréotypes, ils ont commencé à être bien intégrés, mais du coup, en grandissant, ils vont prendre d'autres formes. Et là va commencer à rentrer en compte la question de la sexualité et du rapport entre filles et garçons. La question de l'orientation sexuelle, qui est aussi très forte, qu'on soit fille ou garçon, ça va être très difficile pour un garçon d'assumer son homosexualité, parce que c'est un vrai questionnement sur l'identité masculine. Si on n'est pas hétérosexuel, et ben peut-être ça veut dire qu'on n'est pas un vrai homme. Chez les filles, ça ne veut pas dire que ce sera toujours plus simple à vivre. Mais il n'y a pas le même questionnement. Les difficultés, elles se placeront ailleurs. Cela dit, on pourra entendre des choses comme des accusations un peu de masculinité et de virilité qui ne seront pas à leur place. Donc, les filles à l'adolescence, elles doivent se placer entre quelque chose de entre la fille bien et la fille facile. Donc c'est pas simple non plus pour elles. Donc il y a tous ces stéréotypes où une fille, une fille qui aurait plusieurs petits copains, c'est une fille facile et on va vite l'accuser de d'autres mots beaucoup plus vulgaires. Et une fille, être une fille bien, comment on fait pour être une fille bien? C'est pas si simple comme ça. Et parfois même, être trop une fille bien, c'est être une fille coincée. Donc c'est pas non plus terrible. Donc ce juste milieu n'est pas simple à trouver pour les adolescentes. Et elles se retrouvent parfois dans certaines difficultés. Pour les garçons, ça va pas être plus simple non plus toujours. Parce que pour assumer cette masculinité, assumer le fait qu'on est un vrai gars, des fois ils vont pousser à l'extrême des comportements virils. Et du coup, qui vont aller parfois vers des comportements même violents. Et vu qu'on a encouragé depuis qu'ils sont tout petits en leur disant « un garçon, ça pleure pas », l'expression des sentiments n'est pas quelque chose qui va leur sembler très naturel. Et ça ne s'apprend pas comme ça, à exprimer ses sentiments. Donc pour les garçons, ça ne va pas être simple non plus. En termes d'éducation, très concrètement, à la maison, on va demander plus aux jeunes filles de participer aux tâches ménagères qu'aux jeunes garçons. De manière tout à fait logique, étant donné que la petite fille, depuis petite, elle aura suivi un peu ce que sa maman faisait. Ça, les garçons nous le disent assez régulièrement quand on les voit dans les collèges, dans les lycées, qu'on leur pose un peu la question. on voit la différence entre les filles et les garçons, et les filles nous disent « Ah, mon frère, on lui demande jamais rien. » Et puis, alors, il y a certains gars qui participent, hein, parce que quand même, mais c'est intéressant de voir. Le temps passe beaucoup plus vite que ce que je pensais. Donc, au niveau de l'orientation professionnelle, évidemment, il y aura des répercussions. De manière assez classique, on entend souvent qu'on oriente les filles plus vers des filières littéraires et les garçons plus vers des filières scientifiques, ce qui forcément aussi, au niveau du choix des métiers, ça a des répercussions. Les filles, les femmes aujourd'hui occupent une grande partie des postes tertiaires, soins des personnes, et les garçons vont plus être dans des postes à haute responsabilité. Ce qui n'est pas sans conséquence sur après les salaires. Et donc là, on va voir que bah forcément à l'âge adulte, ça évolue. On a parlé de la répartition des tâches domestiques. Donc ça, voilà, ça ne vient pas de nulle part. Et forcément après, on va entendre plus souvent parler d'une secrétaire, mais d'un directeur, d'une infirmière, mais d'un médecin. Et même dans notre vocabulaire, on va alimenter nous-mêmes des choses. On a assez rarement le réflexe de dire un infirmier. Est-ce que tu es allé voir l'infirmière scolaire ? Non, est-ce que tu es allé voir l'infirmière scolaire ? Et pourtant, il y a des infirmiers. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a. Donc, on ne part pas du principe que de base, on pourrait poser la question qu'il peut y avoir les deux. Donc, c'est très insidieux. C'est pour ça que ce n'est pas simple. Et c'est pour ça que les stéréotypes de genre, on a du mal un peu à les déconstruire, ou en tout cas à les travailler. Pour conclure, très rapidement, l'idée, c'est qu'évidemment, on n'empêche pas les petits garçons de faire du foot et qu'on n'empêche pas les petites filles de jouer à la poupée. Ce serait assez triste. L'idée, c'est de proposer toutes sortes de modèles aux enfants et qu'ils aient la capacité, juste une liberté de choix, de faire ce qui les attire et qu'on leur propose vraiment un champ des possibles beaucoup plus large qu'on peut parfois leur proposer. Donc, je vous ai apporté des livres, on en a en commun qui ont été posés à la fin. Au planning familial, on intervient dans les collèges, dans les lycées, mais aussi auprès des tout-petits, parce que justement, on pense que il y a beaucoup de choses à faire dès tout-petits. Et on utilise l'album jeunesse comme un véritable outil, parce que ça peut donner déjà l'envie de la lecture aux enfants, et parce que ça fait passer des messages très forts. Et donc, c'est des livres qui vont effectivement essayer de contrer un petit peu ce qu'ils peuvent lire habituellement, ce qu'ils peuvent voir tous les jours. Donc, ça va être bah, Une fille qui en a marre du rose. Ça va être Mademoiselle Zazie qui se demande est-ce qu'elle a un zizi ou pas. Avec la morale de l'histoire, c'est qu'en fait, il n'y a pas les avec zizi et les sans zizi. Et elle est avec zizi et avec zézette. Et que nos différences, elles ne doivent pas justifier une différence de traitement et des inégalités derrière. Donc il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui, dont l'album jeunesse qui est un super outil. Donc je vais m'arrêter là, parce que je crois que le gong m'a permis quelques secondes supplémentaires. Merci.
Merci pour ces 21 minutes.